La danse des mots. Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui est bien contente aujourd'hui de vous rappeler qu'elle va retrouver sa familière puce à son oreille puisque Lucie Bouteloup nous la portera dans une vingtaine de minutes et qu'auparavant nous allons nous rendre à la Bibliothèque Nationale de France ou peut-être à la Bibliothèque de l'Arsenal, mais je crois que ces deux bibliothèques en fait n'en font qu'une et que l'une est incluse dans l'autre à propos d'une exposition qui s'est ouverte depuis hier, qui n'est pas d'ailleurs ouverte à tout le monde, où l'on se rend sans rendez-vous et qui est largement destiné à un public scolaire, une exposition sur la lettre et sur la typographie. Et dans l'écho de cette exposition, il y a un colloque qui s'ouvre lundi prochain. Pour parler de tout ça, Joseph Beltante, qui est directeur du musée de la typographie et de la communication graphique à Lyon. Et puis en studio ici, Sophie Navrocki et Florence Codet, qui toutes deux sont conservatrices à la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Sophie Navrocki et bonjour Florence Codet. Alors, bonjour. Il y a un instant, je mentionnais donc cette exposition qui est une exposition où on va sur la pointe des pieds quand on est invité. Première question, quelle est cette exposition? Deuxième question, à qui est-elle destinée?
Alors, c'est une
Florence Codet.
Bonjour et merci Yvan Amar pour votre invitation. Donc c'est une exposition de la collection du typographe et créateur de caractères Ladislas Mandel. Donc une exposition composée d'objets, de supports divers, témoins de l'histoire des écritures du deuxième millénaire jusqu'à nos jours. Et une exposition aussi qui montre l'évolution de la forme de la lettre, la typographie, l'apparition du livre imprimé jusqu'à nos jours. Elle est ouverte prioritairement aux scolaires. C'est une exposition à caractère pédagogique, mais elle est ouverte à tous sur rendez-vous. C'est une exposition qui n'est pas gardiennée et qui se visite lorsqu'on est accueilli sur rendez-vous. Et pour cela, on peut trouver les dates de visite sur le portail des métiers du livre que je vous invite à consulter. Voilà, dès à présent. Et cette exposition témoigne aussi de la passion, de la fascination d'un homme qui était avant tout un plasticien, qui était passionné par la forme de la lettre, par la forme dans son équilibre, sa tension, sa perception, et qui est devenu dessinateur de caractère. Et il a notamment dans sa collection un fond inestimable d'objets d'histoire de l'écriture, sur lesquels donc Sophie peut revenir.
Oui, donc c'est une exposition qui est consacrée à Ladislas Mandel. Et vous disiez il y a un instant qu'il y avait un certain nombre de signes typographiques qui remontaient au deuxième millénaire. Quand on entend le mot typographie, c'est vrai qu'on pense d'abord à l'imprimerie, donc à quelque chose qui date du début du 16e siècle, enfin qui a 5 ou 6 siècles. Et vous évoquez justement l'écriture depuis le deuxième millénaire. Il y a un continuum du signe de l'écriture depuis les débuts de l'écriture jusqu'à aujourd'hui, ou bien est-ce que vraiment il y a une espèce de césure définitive au moment où on invente l'imprimerie et donc la typographie? Sophie Navrocki.
Pour Ladislas Mandel, il était très important de fonder la recherche typographique, la création dans le monde contemporain sur une large histoire des écritures. C'est un corps organisé de signes et de symboles pour noter la pensée de l'homme, l'exprimer. C'est un témoin des peuples et des civilisations. Et tout système de notation et de création de lettres fait sens pour Mandel. C'est un témoin de la grande inventivité des hommes, la beauté de la forme de la lettre, son équilibre sur un objet, jusqu'au geste créateur de la lettre.
Alors justement, vous dites que Ladislas Mandel il invente un métier qui est le métier de dessinateur de caractère. Qu'est-ce qu'il a inventé exactement? Qu'est-ce que ça veut dire, inventer ce métier de dessiner des caractères?
Alors, pour comprendre le contexte dans lequel est née l'invention du métier de dessinateur de caractère, il faut se replacer dans les années 1950, où l'imprimerie connaît une révolution avec l'arrivée de la photocomposition, de la photogravure, de l'offset.
En deux mots, qu'est-ce que c'est que la photocomposition ?
C'est un procédé de reproduction des caractères qui permet de se libérer des contraintes du plomb. Mmh. Et donc, jusque-là, on composait les caractères en plomb, ça veut dire que l'on
C'est-à-dire
conservait...
C'est-à-dire déjà, on les composait à la main,
avec
une petite pince, et on les mettait à l'envers sur un petit support pour qu'après, tout ça soit ancré et s'imprime.
Oui, tout à fait. Et les nouveaux caractères, donc issus de cette nouvelle technologie, sont plus maigres, sont moins lisibles, parce qu'ils ont perdu justement les défauts de l'ancrage, les défauts du foulage, en tout cas, le vocabulaire de la typographie, ce qui leur donnait une épaisseur et ce qui donnait l'image d'un mot qu'on reconnaissait. Donc, Ladislas Mandel invente le métier de dessinateur de caractère au sens où, aux côtés d'un graphiste suisse très célèbre qui s'appelle Adrien Frutiger, il s'attache à redonner au caractère cette lisibilité, cette densité. Donc, il y a un retravail de caractère et une adaptation des catalogues plomb à cette nouvelle technologie qu'est la photocomposition.
Alors, on sait que cette exposition a été préparée en partenariat avec un musée, qui est le musée donc de la nouvelle communication graphique. Ce matin, au téléphone, nous avons joint le directeur de ce musée, Joseph Beltante, à qui j'ai demandé justement si tout cela changeait, s'il y avait du nouveau. Voilà ce qu'il m'a répondu.
Bonjour. Il y a du nouveau sur le front typographique. Déjà, le musée lui a changé de nom en 2014 en installant à côté de l'imprimerie les termes communication graphique. Donc ça veut dire que déjà le graphisme était important. Il y a peu d'institutions patrimoniales qui parlent du graphisme aujourd'hui. Hein. C'est souvent des musées d'art décoratif. Et on est confronté comme ça à une nombreuse scène typographique de jeunes typographes français internationaux qui sont très installés. Donc la nouveauté, c'est surtout le fait qu'il y ait de plus en plus de fonderies individuelles, de jeunes typographes qui réussissent et qui comme ça imposent leur style et leur patte dans le monde visuel international.
À votre avis, comment ça s'explique ce dynamisme justement en typographie aujourd'hui ? Est-ce que l'intérêt pour la forme des lettres, pour les graphes, pour les graffitis, à votre avis, est-ce que ça y est pour quelque chose ?
Je pense qu'en fait, on a maintenant suffisamment de recul avec une vie très industrielle de la typographie qui s'est terminée dans les années 50, qui a revécu dans les années 90. Et depuis maintenant, on a un peu digéré cette histoire-là, ce qui fait que c'est plus facile pour quelqu'un qui ne connaissait pas ce domaine, par le dynamisme qui est dans le monde du graphisme et du design graphique, de tomber un peu dans la marmite et en tout cas de pouvoir vraiment aller très loin dans la recherche, avec beaucoup de formations, beaucoup de diplômes, et devenir vraiment très très spécialisé. C'est surtout ça en fait, je pense, c'est le recul qui permet de former aujourd'hui des jeunes indépendants qui sont à la fois créateurs de caractères et puis aussi qui sont des spécialistes historiques de certains domaines.
Et ce qu'ils trouvent, est-ce que ça bascule facilement dans une présentation au public ? Est-ce que justement les créations de ces nouveaux graphistes, est-ce qu'on les voit ? Est-ce que c'est adopté par des maisons d'édition, par des publicités, par des textes qu'on peut voir sur les murs des villes ou bien est-ce que ça reste une recherche un petit peu entre soi.
Bah, je pense qu'on est toujours un peu dans le mélange des deux. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est encore en plein essor et qui demande effectivement à être plus connue, plus vue, plus soutenue. Mais malgré tout, là, on s'aperçoit que certains caractères forts, on pense évidemment aux premières créations de Jean-François Porcher dans les années 90 autour des titres du Monde, petit à petit, on a comme ça des caractères très forts qui sont créés par des Français, notamment, entre les années 90 et aujourd'hui. Le dernier exemple en date, c'est le caractère lancé par le ministère de la Culture, hein, qui s'appelle Faune, qui était réalisé par Alice Savoie, qu'on retrouve déjà maintenant en italique sur le fronton des écoles et dans beaucoup de titres de presse aujourd'hui. Donc en très peu de temps, puisqu'il a été créé en début d'année, il a été lancé en début d'année 2018, il est déjà là, très présent visuellement dans de nombreuses structures et l'espace public aussi.
Joseph Beltante, vous dirigez un musée. Alors qui vient à ce musée ? Quel est le public auquel vous vous adressez ? Et qu'est-ce qu'on vient chercher ? Qu'est-ce qu'on vient voir quand on va au musée de l'imprimerie et de la communication graphique ?
Alors, il y a ceux qui savent tout de suite qui viennent chercher. Donc ça, c'est assez facile. C'est les publics spécialistes, étudiants, chercheurs, enseignants, enfin tous ceux qui ont un intérêt pour le graphisme globalement et qui viennent se détacher un peu d'une mode visuelle et replonger un peu un voyage dans le temps assez classique, mais qui en même temps permet vraiment de prendre de la perspective et de se repositionner en tant que qu'intéressé par la lettre, par le visuel, par l'époque aussi qui nous entoure. Puis il y a ceux qui savent pas vraiment ce qu'ils viennent chercher et qu'on attire comme ça par des grands noms ou par des mots qui... On travaille notamment sur les logos, là on travaille sur Andy Warhol, donc on a comme ça des mots qui viennent les chercher et ils découvrent comme ça la complexité de l'architecture visuelle, comment on travaille, comment on se réapproprie ce qu'on voit, ce qu'on lit. Et je pense que voilà, il y a quelque chose de très politique là-dedans, dans l'idée de récupérer une position, une manière de lire, une manière de pouvoir être créateur aussi de ce qu'on lit.
Il a beaucoup changé votre musée donc ces dernières années. Est-ce qu'il s'est modernisé? Est-ce qu'il s'est ouvert à des publics nouveaux, plus désireux de s'y connaître en typographie?
Oui, c'est sûr que ça change. Après, il faut pas rater déjà ce qui se fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des travaux intéressants qui se font, il faut pouvoir être caisse de résonance. Il y a la question des archives qui est aussi très étrange parce que beaucoup de jeunes graphistes et de designers graphiques travaillent et de typographes travaillent avec le numérique et se posent la question de ces archives numériques. Comment on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de les archiver, comment on les archive, et du coup, c'est en travaillant des objets, des bases de données comme ça qu'on se fait aussi connaître à l'extérieur. Donc les nouveaux publics, il y a beaucoup, un public de plus en plus jeune, hein, ça c'est sûr, mais c'est un petit peu la bascule entre le monde de l'imprimé, de l'imprimerie, où on avait quand même des machines, une histoire des techniques, et petit à petit une histoire visuelle, graphique, presque numérique. Donc on fait comme ça la bascule aussi dans nos publics, entre ceux qui viennent pour retrouver une atmosphère, une idée, l'histoire des livres, et ceux qui viennent aujourd'hui pour mieux saisir l'époque visuelle et ce qui les entoure.
Alors, on vient d'entendre Joseph Beltante parler d'une histoire graphique qui est en constante évolution. Et dans le cadre de cette exposition qui est consacrée à Ladislas Mandel, vous dites dans le petit texte de présentation qu'il a humanisé la lettre. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est typographe, quand on est inventeur en typographie, humaniser une lettre? Florence Codet.
Une formule qui revient fréquemment sous la plume de Ladislas Mandel, c'est l'homme derrière la lettre. Et chez Ladislas Mandel, on trouve cette nostalgie d'une mémoire corporelle, d'un geste de la main du scripteur qu'on trouve dans l'écriture manuscrite, qu'on peut essayer de reproduire aussi dans la typographie. Mais il y a cette idée que chaque civilisation essaye fixer à travers la forme d'une écriture une trace de son existence. Et ça, c'est une spécificité culturelle à laquelle Mandel était très attaché.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion.
L'éternité, un peu plus de vie. Merci à Flavien Berger qu'on vient d'entendre dans cette danse des mots, donc consacrée à l'histoire de la typographie, puisque il y a une exposition qui s'est ouverte depuis hier, qui est consacrée à cette histoire. Une histoire étonnante parce que très souvent, quand on n'a pas l'œil fait, quand on n'est pas habitué à ça, on a l'impression que la typographie, ça ne bouge pas. Or, ça bouge, mais ça bouge de façon insensible, de façon tellement insensible que l'œil du lecteur, qui est habitué à aller au sens et non pas au support du sens, ne se rend pas compte de ce qui l'amène à cette signification, en fait. Si vous lisez un mot et qu'on vous dit après c'était écrit en minuscule ou en majuscule, peut-être que vous n'en saurez rien. C'était en bleu ou c'était en rouge, peut-être que vous n'en saurez rien. Vous avez lu la phrase, vous avez lu le sens, vous n'avez pas lu les lettres elles-mêmes. Alors, est-ce que ces lettres, Sophie Navrocki et Florence Codet, est-ce qu'elles évoluent beaucoup, est-ce qu'elles changent beaucoup sans que le lecteur s'en aperçoive? Sophie Navrocki.
Ladislas Mendel fonde sa pensée sur une histoire très longue des écritures. Il a rassemblé ses objets, ses livres, ses défaits pour cela aussi. Et il a essayé de comprendre pourquoi on façonne une lettre ainsi. Pourquoi une lettre capitale sur une pierre, la pierre d'un monument. Pourquoi on prend l'encre d'un calame qu'on fait glisser sur le papyrus pour faire une écriture cursive. Derrière, c'est pas forcément le matériau qui va façonner la lettre, la constituer, la créer. C'est aussi une volonté et un usage qui crée et qui façonne la lettre. Et ça, il a cherché à l'explorer au cours des siècles. Et cette pensée l'amène ensuite à examiner beaucoup plus finement au moment de l'apparition de l'imprimerie, au 15e et au 16e siècle et au-delà, sur quoi se fondaient ces inventeurs typographes.
Alors, ils se fondaient sur quoi, ces inventeurs typographes?
C'est...
Florence Codet.
Alors, si l'on suit la pensée de Ladislas Mendel, ne fait pas l'unanimité, on peut penser qu'il y avait un clivage géographique et culturel nord-sud, donc qui donnait lieu à différentes écritures reflétant un tempérament, une civilisation, une pensée. Alors, ça, c'est la pensée de Ladislas Mendel, en quelque sorte, un caractère pour un caractère, ou une vision assez psychologisante aussi de la forme des lettres. Après, il y a des héritages qui se transmettent. Par exemple, l'écriture humanistique.
Dites-nous un mot sur ce que c'est.
Alors, c'est l'écriture ronde de la Renaissance italienne, hein, qui était utilisée par les lettrés, donc manuscrite puis transcrite en typographie, enfin composée en caractères.
Avec une typographie qui imite le mouvement de la main et de la plume.
Tout à fait. Et qui garde effectivement le caractère manuel du geste du scripteur. Mm-hmm. Alors, Ladislas Mendel y était très attaché. Et cette écriture humanistique italienne, finalement, dérivait de la Caroline du 9e siècle, d'un désir d'uniformisation en quelque sorte, pas typographique, mais de la lettre, voulue par Charlemagne pour asseoir justement.
Cette lettre Caroline, le mot empire. Caroline, ça vient de Charlemagne.
Ça vient de Charlemagne, tout à fait. Mm-hmm. Voilà, donc on a parfois une continuité dans l'évolution des formes des lettres aussi, où un typographe, à un moment donné, va s'inspirer de son prédécesseurs. Il y a des caractères qui sont encore copiés et repris depuis le XVIe siècle, comme le caractère Garamond, par exemple. Même s'il est transformé, il y a quand même une forme de lettre, peut-être une conception de la lisibilité et aussi une appréciation esthétique qui a permis à ce caractère de parvenir jusqu'à nous. Après, plus tardivement, on peut évoquer aussi le cas des didots.
Qu'est-ce que c'est que les didots, alors?
Alors, les didots, il y en a plusieurs. C'est une dynastie. C'est une dynastie d'imprimeurs libraires qui ont commencé donc à composer des caractères au XVIIIe siècle et qui ont en quelque sorte durci progressivement la lettre. La France, pendant un certain temps...
Qu'est-ce que ça veut dire, durcir la lettre?
Alors justement, je voudrais expliquer en termes de forme. La France, pendant un certain temps, s'est inspirée donc de l'écriture humanistique et du romain, en fait, d'une lettre assez ronde. Et puis, avec les didots, on on a une lettre qui petit à petit devient plus verticale. Mmh. Voilà, et donc avec un contraste entre les pleins et déliés qui va s'accentuer progressivement. Donc les Didos, c'est vraiment cette dynastie qui, sur un siècle et demi à peu près, a conditionné aussi l'évolution de la typographie. Et le roman, si on parle du roman, justement, on peut parler du Times New Roman aussi, donc qui a été adapté pour le titre du journal anglais en 1932 par Stanley Morrison.
Et le pour Times le titre New Roman, du Times.
Voilà, mm-hmm. Le Times New Roman, c'est la typographie qu'on trouve encore sur nos ordinateurs aujourd'hui.
Mais Ladislas Mandel était aussi très attaché à voir et à collecter la grande diversité des lettres imaginé et inventé, et aussi à côté du Dido, et il a collectionné et rassemblé des défaits pour tous les types d'écriture.
Vous dites des défaits.
Alors les défaits, ce sont des pages extraites d'un livre. Ça peut être la page de titre ou un cahier seulement extrait et qu'il a rassemblé ce que Ladislas Mandel souhaitait voir. Avoir autour de lui, c'est des types d'écriture différents, qu'elles soient manuscrites ou imprimées, pour comprendre la forme de la lettre. La forme de la lettre au XVIe siècle, un extrait du Parlement de la ville d'Aix et une lettre écrite au XVIIIe siècle n'est pas la même. Pourquoi cette évolution ? Ça l'intéresse, les pleins, les déliés. Sur quelle ligne le point d'équilibre de la lettre se pose. Pour Mandel, il n'y a pas que le Dido, il y a aussi toutes ces italiques qui ont été inventées au XVIe siècle, le grand jonc, les lettres d'Almanus, les lettres de civilité par la suite, au XVIIe, au XVIIIe siècle.
Alors on voit tout ça, j'imagine, dans cette exposition. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter, cette exposition donc qu'on peut voir, mais sur rendez-vous, si on se débrouille pour qu'on vous y ouvre la porte, l'exposition qui est donc consacrée à Ladislas Mandel par la Bibliothèque Nationale de France. Merci donc à vous deux, Sofrine Navrovski et Florence Codet. Il est temps maintenant de retrouver la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Oh là là, ce regard sombre n'augure rien de bon.
C'est de mes yeux que vous parlez comme ça.
J'espère que je ne vais pas me faire sonner les cloches.
Et pourquoi voudriez-vous qu'on vous les sonne les cloches, Lucie Bouteloup ?
Je ne sais pas, une idée comme ça, on est
vous
toujours
coupable
de quelque chose.
Non, c'est un sentiment que je partage.
En tout cas, c'est bien de ces cloches dont nous allons parler dans la puce aujourd'hui. Pas des cloches de Pâques qui déposent des chocolats dans vos jardins, non, mais des cloches annonciatrices de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, aujourd'hui c'est Marie-Dominique Poré qui va tirer la ficelle du battant pour faire résonner ses explications dans le poste. À ses côtés, la classe de CE1, CE2 de l'école des Épinettes à Paris, se faire sonner les cloches, carillonner jeunesse.
Se faire sonner les cloches, ça veut dire que quelqu'un écrit très fort et ça nous fait très très mal aux oreilles. Comme les cloches, ça fait un bruit très fort et quand on crie très fort, ça fait aussi un bruit très fort.
Faire sonner les cloches, ça veut peut-être dire être bête.
Sonner la cloche de l'église.
Et quand tu fais pas vite ton travail, ben t'es puni de sortie et de récréation.
Ça veut dire avoir une idée.
Se faire sonner les cloches, ça veut dire qu'on a gagné un lot.
Peut-être qu'il est le millième client.
Se faire taper très fort et on reçoit une force très grande.
Quelqu'un est en colère contre toi et toi, c'est comme si dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe.
Se faire interroger par quelqu'un parce que quand on sonne une cloche, c'est très puissant et on entend beaucoup de bruit. Du coup, ça fait comme si on sonnait une cloche.
Sonner les cloches, ça peut dire dépasser les bornes.
Quand on se fait gronder très très fort parce qu'on a fait une très très grosse bêtise et on était un peu endormi, du coup on te réveille un peu.
Te réveiller brusquement.
Ça veut dire faire du bruit énormément et énerver les autres.
L'oreille.
Alors, avoir gagné le gros lot, la colère, les enfants manifestement ont été assez inspirés par cette expression, Marie-Dominique Poré.
Ils ont entendu les cloches.
Ils ont entendu les cloches. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle veut dire, cette expression ?
Alors, l'expression, c'est parce que de tout temps à jamais, depuis le Moyen-Âge, il y avait des églises dans les villages de France et on sonnait les cloches. Il y avait un carillonneur qui était préposé à cela et la sonnerie de la cloche, effectivement, qui faisait souvent des bruits assourdissants, était pour marquer les étapes de la journée, pour marquer les événements de la communauté et c'était aussi pour surtout rappeler aux fidèles l'heure et le moment du culte religieux.
L'heure, les naissances,
tous les événements. Voilà. Il y a de quoi en devenir sourd parce que c'est un bruit très, très, très puissant.
Oui, donc ça, on a bien compris cette idée de son assourdissant,
voilà. Et ça, les
de la cloche qui
aussi.
Sonne très fort.
Voilà.
Et puis, il y a aussi cette idée de frapper, puisque pour que la cloche sonne...
Il faut la taper. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette cloche, dans cette expression?
Alors, la cloche, en fait, l'allégorie de la puissance divine, autrefois, et puis de la colère aussi de Dieu quand il n'est pas content. C'est pour ça que souvent, quand on dit maintenant sonner les cloches, ça veut dire réprimander un enfant, parce qu'on lui en veut de quelque chose.
Alors, il y a à la fois la notion d'annoncer quelque chose de très grave.
Il y a l'information, oui.
Il y a aussi ce bruit assourdissant qui prend toute la tête.
Oui.
Et qui sonne un petit peu comme dans l'expression être sonné.
Oui.
Qui étourdit.
Oui.
Et puis, il y a aussi cette idée de coup.
Et ça fait mal.
Comme si la cloche était la tête.
Voilà.
Alors, au 17e, il y a une autre expression. On dit faire sonner la plus grosse cloche qui voulait dire faire parler la personne qui a le plus d'autorité puisqu'on en revient à cette allégorie de Dieu.
Oui.
Donc, la plus grosse cloche, c'était la personne qui avait le plus d'autorité, celle qu'on entend le plus. Il y a beaucoup d'expressions avec le mot cloche qui n'ont pourtant rien à voir. Hein.
Oui.
N'entendre qu'un seul son de cloche, ce qui veut dire n'entendre qu'une seule opinion, qu'une seule version des faits. Mmh. Il y a aussi déménager à la cloche de bois, ce qui veut dire partir d'un logement sans payer, furtivement. Mais on est loin de l'idée...
Là, on est parti très loin. Et un clochard vient de là, du reste aussi. Hein.
Alors, un clochard, être à la cloche, c'est-à-dire sans domicile.
Il vit à la cloche. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser qu'il vit au rythme des événements que pourrait éventuellement lui donner une cloche.
Exactement. Ou alors, il y a être à la cloche, on pouvait dire, pour être au parfum, être informé. Ou alors... quelque chose qui n'a encore rien à voir, mettre quelqu'un sous cloche pour dire qu'on le protège.
Faut que la cloche soit en verre.
Faut
pas qu'elle soit effectivement en airain.
Ou se taper la cloche.
Ou
pour dire qu'on mange un bon repas.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à cette expression, se faire sonner les cloches? Se faire enguirlander.
J'ai enguirlandé, oui.
Se faire remonter les bretelles.
Oui.
Se faire rappeler à l'ordre,
oui,
c'est moins imagé.
Se faire tirer les oreilles, oui.
Alors en Espagne et en Italie, on chante les 40 à quelqu'un. En Angleterre, on give someone an earful, ça veut dire qu'on lui en met plein les oreilles. Comme quand on dit tu vas m'entendre, je vais t'en mettre plein les oreilles, quoi.
Oui, tu vas. Oui,
mais il y a toujours cette même idée d'avoir la tête pleine de quelque chose.
Oui.
En Roumanie, on dit frotter le radis à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que le radis ? Je laisse à chacun
imaginer.
Aux Pays-Bas, en Belgique, on lit ou on épelle la leçon à quelqu'un. Donc j'imagine que si on épelle, c'est qu'on prend bien le temps d'énoncer quelque chose de très précis. Donc j'imagine que c'est pas une partie de plaisir.
Non, bien sûr.
Et on laisse aussi le tonnerre s'abattre, comme la foudre qui s'abat sur quelqu'un, toujours avec cette histoire divine. Bien, merci Marie-Dominique Poré après toutes ces cloches et cette foudre. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdis. Comme nos auditeurs ont du plomb dans la cervelle et qu'ils sont loin d'être des cloches, je leur rappelle qu'ils peuvent se procurer votre ouvrage intitulé « Vader Retro Satanas et 99 autres expressions religieuses » et qu'il est paru aux éditions First. Merci encore Marie-Dominique Poré.
Avec
et à
plaisir.
La semaine prochaine.
Merci.
Merci bien à tous ceux qui ont participé à cette danse démo. Merci à Lucie pour sa puce à l'oreille. Merci Sophie Navrocki, Florence Codet et Joseph Beltan de nous avoir parlé de cette exposition qu'on peut voir donc en ce moment à la Bibliothèque Nationale de France, dont on parlait dans cette danse démo, une émission qui vous est proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Marjorie Bertin, Lucie Bouteloup,